17e épisode. Le démon de la Maison Bleue. Chapitre 1er. Le choix d'un gendre. Monsieur Bonbridge, célèbre dans toute l'Amérique par la façon quasi géniale dont il avait organisé la production intensive de l'escargot comestible, avait réuni ce jour-là quelques amis dans la superbe propriété qu'il possédait en Floride, à quelques miles de la ville de Tampa. Parmi ses invités, on remarquait Lord Astor Buridan, fameux par ses aventures excentriques, le prestigitateur Matolobos, l'honorable James Rowland, propriétaire du Trust des chaussures d'occasion, et un jeune Français, Oscar Tournesol, attaché au laboratoire de l'illustre naturaliste Prosper Mondonat. Ces trois personnages avaient, depuis longtemps déjà, posé leur candidature à la main et au million de Miss Regine Bonbridge. Mais, jusque-là, il eût été impossible de dire lequel des trois avait le plus de chances de réussir. Oscar Tournesol était, disait-on, très aimé de Miss Regine. D'un autre côté, Matalobos était un vieil ami de M. Bonbridge qui le tenait en haute estime. Quant à M. James Rowland, ses millions, la distinction de ses manières et sa parfaite élégance faisaient de lui, pour ses deux rivaux, un concurrent redoutable. M. Bonbridge, après de longues hésitations, avait enfin déclaré qu'à l'issue d'un grand repas donné en l'honneur des prétendants, il proclamerait le nom de l'heureux mortel appelé à devenir son gendre. Cette conduite singulière lui avait attiré quelques observations courtoises de la part de M. James Rowland. Vous avez sans doute fait votre choix, avait demandé le distingué gentleman. Eh, cela se pourrait bien, avait répondu M. Bonbridge. Mais alors, pourquoi ne pas le faire connaître tout de suite? Il y a quelque cruauté à mettre si longtemps notre patience à l'épreuve. Laissez-moi faire, j'ai mon idée à ce sujet. James Rowland n'avait rien pu tirer de plus de M. Bonbridge. En dépit de toutes les sollicitations, celui-ci s'était renfermé dans une discrétion impénétrable. Le repas fut digne de la réputation hospitalière du maître de la maison. Sur la carte du menu, le foie de tortue verte truffée voisinait avec les langoustes à la mexicaine, le faisan de la Floride et un de ces délicieux lézards iguanes, communs dans l'Amérique centrale et qui fut servi avec une sauce caraïbe. Citons encore, parmi les curiosités gastronomiques, des gombos tendres et savoureux et des choux palmistes. Le cuisinier de M. Bonbridge n'avait eu garde d'oublier un plat d'escargot savamment grillé et servi avec une sauce dont le madère de la célèbre marque Barnum faisait le principal élément. Les convives s'installèrent autour de la table parée de fleurs magnifiques. Miss Regine, dont une claire toilette de linon des Indes faisait ressortir la beauté blonde, s'était assise à la place d'honneur entre son père et Lord Buridan. Elle affectait beaucoup de bonne humeur et de gaieté. Mais au fond, elle était inquiète et de temps en temps, elle lançait à la dérobée du côté d'Oscar des regards anxieux et presque consternés. Les invités de M. Bonbridge venaient de savourer le potage aux huîtres, qui est pour ainsi dire la base de la cuisine yankee et sans lequel il n'y a pas de repas sérieux, lorsque Lord Buridan tira de sa poche une lettre qu'il venait de recevoir et la fit lire à Oscar. Celui-ci, après l'avoir parcourue, se mit à sourire à Miss Regine en même temps qu'il regardait M. James Rowland avec une fixité qui parut du plus mauvais goût à l'honorable gentleman. Ce rapide incident passa, d'ailleurs, presque inaperçu, et bientôt, la gaieté la plus cordiale régna parmi les convives. On but d'abord à Miss Regine, puis à son père, puis tour à tour à la santé de chacun des personnes présentes. Les serviteurs noirs avaient à peine le temps de déboucher les flacons d'extra dry et de les remplacer par d'autres. L'enthousiasme était arrivé à son comble. Maintenant, chacun toastait pour son compte sans se préoccuper de ses voisins. « Au père de l'industrie escargotière !» cria le prestigitateur d'une voix légèrement éraillée. « À sa charmante fille !» dit Oscar Tournesol au moins pour la quatrième fois. « À sa majesté le roi d'Angleterre !»« À l'illustre Prosper Mondonat !»« À la France !»« À la libre Amérique !» Ce joyeux vacarme fut tout à coup interrompu par l'arrivée d'un serviteur noir, le vieux Jupiter, qui semblait terrifié. « Maître !» s'écria-t-il. « Venez vite !»« Tu m'ennuies !» répliqua M. Bonbridge. « Je t'ai défendu une fois pour toutes de me déranger quand je suis avec mes amis. »« À la porte, Jupiter !» cria l'assemblée tout d'une voix. « À demain, les affaires sérieuses !» Le noir ne semblait nullement ému de ce mauvais accueil. « Maître, répéta-t-il avec insistance, venez vite, c'est très sérieux, on vous demande au téléphone. »« Eh bien, on me redemandera. Je ne me dérange pas. »« Maître, répliqua le vieux Jupiter avec entêtement, c'est le directeur de votre succursale de la Caroline du Sud. » « Que me veut-il ? Une catastrophe terrible est arrivée. Je ne peux pas vous expliquer. »« Allons, » dit M. Bonbridge en se levant d'un air contraint. « Il faut que ce soit moi qui cède. »« Messieurs, » ajouta-t-il en se tournant vers ses convives, « je vous prie de m'excuser, je reviens dans une minute. »« Mais soyez tranquille, je suis sûr d'avance qu'il ne s'agit de rien de grave. » Monsieur Bonbridge sortit, les convives se regardèrent en silence. Leur gaieté s'était évanouie comme par enchantement. Le mot de catastrophe prononcé par Jupiter rendait soucieux les plus étourdis, et tout le monde attendait impatiemment le retour du maître de la maison. Mais l'absence de ce dernier se prolongea beaucoup plus qu'il n'eût été nécessaire pour une simple communication téléphonique. Miss Régine, très inquiète, allait se mettre à la recherche de son père lorsque celui-ci reparut. Sa physionomie était bouleversée. Il baissait la tête comme un homme accablé. « Qu'y a-t-il donc, mon cher ami ?» demanda le prestigitateur Matalobos d'un ton plein de sollicitude. « J'espère qu'il ne vous est arrivé aucun malheur. »«
Messieurs, » dit M. Bonbridge avec une simplicité impressionnante, « Jupiter n'avait pas exagéré quand il a prononcé tout à l'heure le mot de catastrophe. Je suis complètement ruiné. »
Cette déclaration produisit une impression profonde parmi les convives, et ce fut au milieu de la plus religieuse attention que M. Bonbridge poursuivit.
Vous n'ignorez pas que je possède dans la Caroline du Sud un établissement aussi important que celui de la Floride. C'est là que j'avais centralisé 3 millions de sujets destinés à l'exportation et que je faisais jeûner en attendant qu'ils se fussent cachetés naturellement. Je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas, que pour être envoyé à de grandes distances, mes mollusques doivent être cachetés.
Eh bien ? Demanda Miss Régine avec impatience. Comme de coutume, les animaux avaient été enfermés dans 3 serres spécialement construites à cet effet et qui peuvent en contenir chacune 1 million. Un cyclone a ravagé la nuit dernière toute cette région de la Caroline du Sud. Le vitrage de mes serres a été entièrement détruit. Une pluie diluvienne survenue aussitôt après le passage du cyclone a rendu aux escargots toute leur vivacité et aussi, hélas, tout leur appétit.
Je devine, fit Lord Buridan, qu'ils ont dû s'échapper et commettre quelques dégâts dans le voisinage.
Quelques dégâts ! S'écria M. Bonbridge en s'arrachant les cheveux.
Mais vous ne savez donc pas, Milord, de quoi sont capables des escargots à jeun, surtout quand il y en a 3 millions. Vous avez vu cependant avec quelle rapidité, même quand ils ne sont pas affamés, ils font disparaître un wagon entier de fourrage tendre. Par une de ces malchances, comme il n'en appartient qu'à moi, la propriété voisine appartient au célèbre horticulteur Brigman, qui s'est spécialisé dans la production des orchidées et des primeurs. Les fugitifs se sont précipités sur ces cultures et ont rongé plantes, herbes et fleurs jusqu'à la racine. En quelques heures, le désastre a été consommé. Il y en a pour des millions de dollars. Quand j'aurai désintéressé M. Brigman, comme j'y suis forcé, je ne sais s'il me restera de quoi vivre. »
Un silence de mort avait accueilli cette fatale nouvelle. Les convives se regardaient, la consternation peinte sur le visage.
« Messieurs, reprit M. Bonbridge, c'est évidemment un malheur, un grand malheur, mais il ne faut pas que cela nous empêche de dîner. Il est tout à fait incorrect de ma part de vous avoir importuné par le récit de mes infortunes. »
Chacun se récria. On essaya de consoler M. Bonbridge en lui disant que le désastre n'était peut-être pas aussi grand qu'on l'annonçait. Mais sous toutes ces paroles, on devinait la gêne et l'ennui. Et ce fut au milieu de la tristesse et de la contrainte la plus pénible que se poursuivit le repas si gaiement commencé. Malgré la chair exquise et les vins précieux, personne n'avait plus faim ni soif. Miss Régine gardait un silence imperturbable. Toutefois, elle faisait visiblement les plus grands efforts pour ne pas pleurer. Et chacun se demandait avec une pitié sincère quels devaient être les sentiments de la jeune fille. N'était-elle pas la première victime de la catastrophe ? Et la plus cruellement atteinte. Chacun comprenait combien était fausse la situation pour Miss Régine et pour ses fiancés, et chacun attendait le dénouement inévitable. Ce fut M. Bonbridge lui-même qui se chargea de l'amener. « Messieurs, dit-il en se tournant vers les prétendants, il est bien entendu, n'est-ce pas, que je vous rends votre parole à tous les trois. Miss Régine n'est plus maintenant que l'héritière d'un ancien clown, d'un homme ruiné qui ne pourra même pas lui donner la dot la plus modeste. »
Matalobos se leva hypocritement les yeux au ciel. « Hélas, murmura-t-il, quel malheur que je ne sois pas moi-même favorisé des dons de la fortune. Je me serais fait une joie de partager tout mon avoir avec mon vieil ami Bonbridge. Mais hélas, je suis pauvre, très pauvre. Il est pour moi bien douloureux de renoncer à la main de Miss Régine. Il est pourtant de mon devoir de le faire, puisque je n'ai pas la fortune qui me permettrait de lui créer une existence digne d'elle, ni même de lui assurer le confort indispensable. »
La ruine de M. Bonbridge ne change rien à mes intentions, déclara Oscar. J'aimais Miss Régine avant qu'elle ne fût riche, je l'aime toujours autant, et je m'applaudirais même, si un tel sentiment n'était égoïste de ma part, d'un événement qui nous met tous deux sur le pied d'égalité quant à la fortune.
Miss Régine remercia Oscar d'un regard et d'un sourire.
M. Bonbridge déclara d'un ton maussade que, du moment où il n'avait pas de dot à donner à sa fille, il ne voulait pas la marier. Il n'y avait que M. James Rowland qui n'eût encore rien dit. Et véritablement, le distingué gentleman se trouvait fort embarrassé. Malgré la beauté de Miss Régine,
il n'était nullement disposé à prendre une épouse qui n'apporterait pas un dollar dans l'association conjugale. D'un autre côté, il trouvait que Matalobos avait montré un peu trop crûment le fond de sa pensée. Or, lui, James Rowland, prétendait agir en toute chose en véritable homme du monde. « Il me semble, fit-il avec un bon sourire, que ce n'est guère le moment de parler mariage. Laissons monsieur et Miss Bonbridge se remettre de cette dure secousse, s'accoutumer à un changement de fortune qui, après tout, n'est peut-être pas irrévocable. » Il ajouta jésuitement en mettant une main sur son cœur. « Pour ce qui me regarde, rien ne pourra modifier mes sentiments à l'égard de Miss Regine. Ils n'ont jamais changé et ne changeront jamais. » En entendant cette déclaration ambiguë, Oscar et Lord Buridan échangèrent un rapide coup d'œil. « Je crains, dit tout à coup l'excentrique, que monsieur, disons James Rowland, puisque c'est sous ce pseudonyme qu'il s'est présenté, n'ait d'ici peu de temps des préoccupations assez sérieuses pour être obligé d'ajourner indéfiniment toute espèce de projet d'union. » Monsieur James Rowland était tout à coup devenu très pâle, puis très rouge. Il jeta un regard instinctif du côté de la fenêtre. « Permettez, milord, fit-il d'une voix mal assurée, pourquoi avez-vous employé à mon égard ce mot de pseudonyme ?»«
Parce que, répondit tranquillement l'excentrique, quand je vous ai connu autrefois, on vous appelait tout simplement Ezekias Palmers, et vous dirigez un établissement où les affiliés pouvaient voir apparaître les âmes des personnes qui leur fut chères. »
Palmers sauta sur sa chaise comme s'il eût été soudain piqué par un serpent.
« Quand je vous ai connu, moi, dit à son tour Oscar, vous dirigez une maison de santé, et même, si j'ai bonne mémoire, vous nourrissiez assez mal vos pensionnaires. »
Monsieur Palmers, qui était doué d'un aplomb imperturbable, avait déjà eu le temps de se ressaisir.
« Je ne veux pas contredire Milord Buridan, dit-il avec une politesse ironique. Mon véritable nom est bien Ezekias Palmers. Mais depuis quand, dans notre libre pays d'Amérique, fait-on un crime à quelqu'un de prendre un pseudonyme pour les besoins de son industrie ? J'ai dirigé une maison de fous et même un institut spirite. Où est le mal ? Tout le monde ne serait pas capable d'en faire autant. »
Il ajouta avec un sourire méphistophélique à l'adresse de Lord Buridan et d'Oscar.
« Il est certainement plus facile au premier venu de se faire enfermer comme fou que de diriger une maison d'aliénés. Somme toute, à l'heure actuelle, grâce à mon intelligence et à mon énergie, je suis à la tête d'une affaire superbe et je puis donner sur mon honorabilité les plus hautes références. »
Lord Buridan était émerveillé de l'aplomb du personnage.
« Master Palmers, lui répliqua-t-il, n'exagérons rien. Ce n'est certainement pas au police office qu'il faudrait aller pour avoir de bons renseignements sur votre compte. » Et j'ai de fortes raisons de croire que la superbe affaire que vous dirigez ne vienne à péricliter dans un avenir qui me paraît très rapproché.
Milord, répondit M. Palmers avec un sang-froid parfait, je méprise ces sortes d'insinuations.
Mais ce ne sont pas hélas des insinuations, fit l'excentrique en tirant de sa poche la lettre qu'il avait lue au commencement du repas. J'apprends de bonne source que quelques centaines de vos clients se sont syndiqués pour déposer contre vous une plainte en escroquerie.
Mensonge, calomnie, protesta M. Palmers.
« Je crains bien, dit à son tour M. Bonbridge en tirant de sa poche un numéro du New York Herald, que ce ne soit Milord qui ait raison. » Et montrant un paragraphe du journal encadré d'un trait de crayon rouge.
« Ma foi oui, ajouta-t-il, c'est extraordinaire. Voilà bien un certain Palmers, dit James Rowland, ancien jockey, ancien directeur de maison de santé, ancien spirit, que la police recherche activement. » Plusieurs détectives ont été lancés à sa poursuite, et son arrestation ne serait plus qu'une question d'heures.
Palmers faisait peine à voir.
« Mensonge que tout cela !» balbutia-t-il d'une voix faible.
« Écoutez-moi bien, Master Palmers, reprit Bonbridge. Je vous ai reçu sous mon toit, il n'entre donc pas dans mes intentions de jouer le rôle de mouchard et de vous livrer à la police. Mais dans votre propre intérêt, je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas prolonger trop longtemps votre séjour ici. »
S'apercevant qu'on n'en voulait pas à sa liberté, Palmers avait reconquis toute son égalité d'âme et tout son aplomb.
Vous me donnez là, mon cher monsieur Bonbridge, répliqua-t-il, un excellent conseil. Je vais partir à l'instant pour Tampa, où je prendrai le rapide de New York. Ma présence est nécessaire là-bas pour déjouer les machinations de mes concurrents. Quant aux journaux qui m'ont diffamé en affirmant qu'une plainte avait été déposée contre moi, je vais leur intenter un procès et demander 100 000 $ de dommages et intérêts. Au revoir, messieurs. Au revoir, Miss Regine. « Je suis sûr que vous n'avez pas cru un mot de toutes les infamies que l'on a débitées contre moi. Vous aurez sous peu de mes nouvelles. Ah, certes, il m'en coûte beaucoup de vous quitter au moment où vous traversez une épreuve aussi cruelle. »
M. Bonbridge, qui s'était levé de table en même temps que Palmers, sortit de la salle à manger et y rentra presque aussitôt.
« Soyez rassurés sur le sort de Régine, dit-il. Je suis heureux de vous annoncer, comme Jupiter vient de me l'apprendre à l'instant,
que le message téléphonique qui m'annonçait ma ruine était l'œuvre d'un mauvais plaisant. « Au revoir, Master Palmus. Vous avez juste le temps de prendre le rapide. J'ai fait atteler le buggy. Jupiter vous reconduira jusqu'à la gare de Tampa. »
Palmus comprit cette fois clairement qu'on s'était moqué de lui. Incapable de conserver plus longtemps son masque de politesse souriante, il sortit en faisant claquer les portes, après avoir jeté un regard furieux sur Lord Buridan et Oscar. Matalobos ne faisait guère meilleure contenance. Il était lui aussi exaspéré d'avoir donné tête baissée dans le piège que lui avait tendu le malicieux Bonbridge. Quant à Miss Régine, elle contenait à grand-peine son envie de rire. Cette attitude mit le comble à la fureur de Matalobos. À son tour, il se leva en balbutiant qu'il était attendu à New York pour affaires urgentes et que, lui aussi, profiterait du buggy pour se rendre à la gare de Tampa.
« Bon débarras !» fit Bonbridge lorsque le prestidigitateur eut tourné les talons. « Je n'aime pas les intrigants. »
Miss Régine s'était jetée gentiment à son cou.
« Dis donc, père, murmura-t-elle en souriant, est-ce que tu vas continuer ainsi à flanquer à la porte mes amoureux ?»«
Ne te plains pas puisque je te laisse le meilleur de tous. »
Et il ajouta d'une voix grave. « Oscar, je vous permets d'embrasser votre fiancée. »
Les deux jeunes gens tombèrent dans les bras l'un de l'autre.
« C'est curieux, murmura Lord Buridan, j'avais prévu ce dénouement. Je dois même m'être précautionné de certaines de ces babioles qu'il est d'usage d'offrir aux jeunes filles en cas pareil. »
Fouillant dans sa poche avec une négligence affectée, il en retira un petit écrin qu'il remit à Miss Régine. Elle l'ouvrit d'une main impatiente, mais le referma presque aussitôt, éblouie. L'écrin contenait une bague de fiançailles ornée d'un gros diamant. Lord Buridan fut chaleureusement remercié, puis M. Bonbridge remplit de nouveau les coupes et s'écria. « Maintenant que nous sommes débarrassés des troubles faits, nous allons boire encore un coup à la santé des amoureux. Hein, Milord, que dites-vous de mon stratagème ? Si je n'avais pas fait croire à ces deux drôles que j'étais ruinée, la pauvre Régine aurait peut-être épousé l'un d'eux.
« Non, s'écria vivement la jeune fille, j'avais promis à Oscar d'être sa femme, je lui aurais tenu parole. »
On ne se sépara qu'assez tard dans la soirée. Il avait été convenu que le mariage de Régine et d'Oscar aurait lieu dans le plus bref délai possible.